Santé Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais d'Ombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais d'Ombes sur le site internet de la Radio Calade, www.radiocalade.fr, ou sur la page Facebook de la radio ou de la CPTS Beaujolais d'Ombes. Cette émission est présentée par l'équipe est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais d'Ombes et animée par Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Aux manettes, Amaury toujours. Et moi-même, Ludovic et Marie ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais vous les retrouverez le mois prochain. Je leur adresse d'ailleurs un message personnel. Vous m'avez laissé les rênes de l'émission, c'est à vos risques et périls. Allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'aide-soignant. La création du diplôme d'aide-soignant date de 1946, juste après la guerre. Il a vu de nombreuses évolutions. Si à l'origine, les aides-soignants aidaient les patients à assumer leurs besoins fondamentaux, aujourd'hui, le métier est bien plus complet et a même, depuis quelques années, de nouvelles attributions. 360 000, c'est le nombre d'aides-soignants qui exercent en France, je devrais dire plutôt d'aides-soignantes, puisque c'est un métier, à l'image d'aujourd'hui, essentiellement féminin à 93%. Les lieux d'exercice sont multiples, et que ce soit en structure ou à domicile, les aides-soignantes travaillent toujours en équipe pluridisciplinaire. Métier mal connu du grand public, il est pourtant un maillon essentiel de la santé, car ce sont des aides-soignants qui sont au plus proche des patients et de leur entourage. Comme toujours, deux temps dans cette émission. Le premier, nous allons découvrir le métier d'aide-soignant et ses valeurs. Nous découvrirons que c'est un métier essentiel dans le parcours de soins. Nous verrons également que les évolutions qui ont été apportées à cette fonction sont nombreuses. Et dans un second temps, nous nous concentrerons sur les particularités de l'exercice du métier à domicile et nous aborderons aussi ses difficultés. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous accueillons deux aides-soignantes. Gaëlle Liberti, bonjour.
Bonjour.
Et Claudine Pérignat, bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter. Depuis quand exercez-vous ?
Alors moi, c'est Claudine. Je suis depuis 33 ans au service de soins à domicile de Villefranche.
Eh bien moi, Gaëlle, ça fait 2 ans et demi que je suis aide-soignante au SIAD de Villefranche, service de soins infirmiers à domicile.
Un grand merci de nous apporter votre connaissance du métier. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le métier d'aide-soignant ?
Le métier d'aide-soignant, c'est avant tout le premier maillon de la chaîne, en fait, du soin, puisqu'on est au plus proche des patients. On fait des soins techniques de toilette, par exemple, et puis d'hygiène. Et on est là aussi pour tout ce qui est repère des petits problèmes qui peuvent subvenir. Et après, on alerte les autres services de soins.
Et quelles études on fait pour devenir aide-soignante ?
Eh bien, c'est un diplôme d'État d'aide-soignant. C'est une formation qui dure 1 an. Dans cette formation, on a des stages. Maintenant, Le diplôme a changé, en fait la formation a changé, il existe aussi une voie professionnelle, on peut faire ça en alternance.
Sur une année aussi ?
Sur une année aussi, oui. Et voilà, ou alors sinon ça peut se faire également en VAE quand les personnes sont déjà auxiliaires de vie, de soins dans les EHPAD ou à domicile, elles peuvent se former en tant qu'aide-soignante en VAE.
Et justement, quelles sont les différences entre votre métier et le métier d'auxiliaire de vie, par exemple ? Alors, on rencontre beaucoup à domicile.
Déjà, on a déjà, un diplôme professionnel de santé, ce qui n'est pas le cas pour les aides à domicile. Ce qui nous permet quand même de prendre des tensions, des choses beaucoup plus médicales que les AVS. Quoi.
Et quelles sont vos missions, justement ? Quels soins vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?
On va dire qu'à 90%, c'est quand même des soins d'hygiène. Après, avec une surveillance particulière au niveau cutané, nutrition, soins dentaires, enfin tout ce qui peut être lié à l'hygiène de la personne.
À l'apparence aussi.
À l'apparence.
Voilà. Est-ce qu'il y a des gestes techniques particuliers que vous apprenez au cours de votre formation qui sont vraiment essentiels à votre métier au jour le jour ?
Oh, on a toujours des formations pour éviter les mal de dos, tout ce qui peut nous apporter, parce qu'on a des gestes quand même répétitifs. Mm-hmm. Mais il faut reconnaître, alors moi, en 30 ans de travail, on a maintenant à domicile un appareillage qu'on n'avait pas au départ. Les verticalisateurs, les lèvres-personnes, voilà. On faisait énormément au bras aussi. Avant, les lits médicalisés, et qui maintenant facilitent, on va dire, quand même bien le soin.
Le travail.
Et auprès des patients, qu'est-ce que vous faites comme, donc vous disiez que vous faites des soins d'hygiène à 90%, les 10% qui restent, qu'est-ce que c'est?
Alors, on prend des constantes, l'attention.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que sont les constantes?
On prend l'attention des patients pour savoir si tout est normal, en fait. S'il y a une alerte, s'il y a une hausse de l'attention, on prévient tout de suite nos responsables qui sont infirmières, puisqu'on travaille toujours sous la tutelle d'une infirmière et en collaboration. Du coup, après, ça nous permet d'alerter un médecin et les personnes concernées. On met aussi des bas de compression ou des chaussettes de compression.
On appelle ça des chaussettes de contention aussi, des fois.
Oui, ouais. Voilà. Oui,
avant.
Avant,
c'est
ça. Des chaussettes. Oui, voilà. Avant. Ça, on regarde beaucoup l'état cutané parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements sur les personnes qui sont alitées tous les jours et c'est très important qu'on ait un œil dessus et qu'on voit l'évolution rapidement si jamais ça se dégrade.
Oui, parce que vous êtes souvent les premières personnes qui vont vous rendre compte d'un problème cutané, par exemple, qui est un des problèmes essentiels des personnes alitées à domicile.
Oui. Oui.
On est le plus près, oui.
D'accord. Et parmi votre patientèle, vous rencontrez principalement des adultes, des personnes âgées. Comment c'est distribué
à domicile c'est toujours au-dessus de 60 ans.
D'accord.
On ne peut pas en dessous. Sur dérogation, ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel.
C'est-à-dire qu'à domicile, c'est forcément des personnes âgées.
Plus de 60 ans.
Voilà, vous ne pouvez pas. Enfin, oui, plus de 60 ans, pas forcément âgées, mais de plus de 60 ans pour des aides-soignantes.
Oui.
C'est ça, pour le service d'aide à domicile.
Voilà, on peut même. On avait demandé une dérogation, par exemple, pour des personnes handicapées et jeunes, plus jeunes, et ce n'est pas possible. Il
D'accord.
faut vraiment des personnes de plus de 60 ans.
Parce que ce n'est pas la même prise en charge.
Voilà.
Mmh. Oui, donc vous n'allez jamais prendre, par exemple, des personnes qui sont tétraplégiques jeunes ou,
Non.
D'accord.
On a aussi beaucoup d'importance au niveau de la communication. Parce que les gens nous racontent beaucoup de choses qu'ils ne racontent pas forcément à leurs médecins ou aux infirmières. On fait aussi souvent tampon entre les...
Le lien avec...
Et la famille également.
Et la famille, oui.
Et justement, auprès de la famille, quel est votre rôle?
Eh bien, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est vrai que les familles nous font confiance pour la plupart et on est un soutien. Souvent pour la famille, où ils vont nous demander des conseils, ils vont se confier, voilà. Donc c'est vrai qu'on est relativement proche des familles en général.
Est-ce que vous avez un rôle de transmission des informations auprès de la famille de manière assez régulière, avec une mise en place de fichiers de suivi ou ce genre de choses, ou ça c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place au quotidien?
Nous,
on a un classeur de liaison chez tous nos malades, enfin nos patients, on va dire. Et toutes les personnels médicales ou non médicalisés peuvent nous laisser des mots de façon à ce que la transmission se suive. Parce qu'on ne voit pas forcément la famille régulièrement.
Et au niveau de l'alimentation, par exemple, est-ce que vous avez un rôle auprès des patients?
Alors aujourd'hui, au CIAD, il y a effectivement quelque chose qui s'est mis en place à propos de la dénutrition. Il y a une formation qui a été faite par nos collègues et qui vont donc chez tous nos patients du CIAD pour mesurer en fait la dénutrition. Et voilà, et après, en fonction de ça, nous, on alerte et on peut mettre des choses en place.
On en reparlera un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Vous disiez que vous aviez un lien avec l'entourage. Est-ce que, par exemple, vous devez parfois peut-être formuler un peu ce qui a été dit par les infirmières, par le médecin? Comment vous jouez ce rôle-là?
Alors, souvent, quand un médecin dit quelque chose, certains patients ne comprennent pas forcément ou n'ont pas forcément envie d'entendre. Du coup, ils vont nous demander des conseils, vont nous demander ce que nous on ferait à leur place. Et voilà, bah là, il faut qu'on prenne un peu de recul et puis qu'on explique un petit peu les choses différemment avec d'autres mots, des mots un petit peu moins techniques que ce qu'ils lisent sur un compte rendu, par exemple. Ça peut arriver, oui, que ça se passe comme ça.
Et justement, dans vos études et puis même dans votre pratique, il y a toujours cette juste distance à avoir pour pouvoir justement prendre du recul. Vous qui avez 30 ans de métier, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, oui, heureusement, parce qu'on a besoin aussi de savoir ce qu'on dit, parce qu'on est aussi personnel lambda, hein, et on n'est pas non plus apte, des fois, à lire vraiment tous les comptes rendus, parce que c'est assez compliqué. Et donc, c'est intéressant, après, de remonter à nos infirmières, pour qu'on puisse expliquer plus clairement les choses, parce que nous, on ne connaît pas, malheureusement, tout, même au bout de 30 ans, il y a encore des choses.
Et au niveau de l'attachement avec un patient, ce recul d'avoir justement de garder un peu de distance, est-ce que c'est facile, ça ?
Non, pas toujours. ouais. Parce que, soyons honnêtes, si on fait ce métier, c'est qu'on aime les gens. Et forcément, on nous apprend à l'école hein, qu'il faut toujours garder une distance professionnelle. C'est comme ça, c'est le métier. Mais on travaille avec l'humain et on est humain. Et je pense que nos émotions font partie de nous. Et c'est ce qui fait qu'on est un bon ou un mauvais soignant. Enfin, si on n'a pas d'émotion, on ne peut pas forcément être un bon soignant, parce que c'est ça qui nous fait voir le changement chez les personnes dont on s'occupe. Donc non, parfois, ce n'est pas facile quand il y a des décès ou quand une personne va mal et qu'on sait qu'elle va mal. Et voilà, on se dit que ouais, ça va être compliqué.
Oui.
Pour la personne et même pour les aidants, quand il nous arrive d'avoir des... On a beaucoup de gens Alzheimer. Hein, et dire au mari ou à la femme, il va falloir un moment arrêter la prise en charge à domicile et le mettre dans un EHPAD où c'est très long et c'est compliqué. Et il faut répéter, essayer de trouver le juste milieu pour leur faire comprendre que c'est pour eux aussi. Et c'est pas toujours évident.
Mais c'est vrai
que y a des moments, c'est compliqué.
Merci. Nous allons faire une petite pause musicale avec Lavie ne vaut rien d'Alain Souchon.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon âme. L'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes.
comme la vie c'est détergent et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis.
Beaujolais d'Ombe.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Vous êtes sur Santé Beaujolais d'Ombe et cette émission est consacrée au métier d'aide-soignant. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site de Radio Calade dans l'onglet Santé Beaujolais d'Ombe. Vous pouvez également retrouver l'émission à partir du site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombe sur www.ctps.beaujolaisdombe.fr. Mesdames, vous nous avez présenté votre métier, mais il y a plusieurs possibilités pour l'exercer. Où travaillez-vous exactement ?
Alors aujourd'hui, on travaille dans un service de soins infirmiers à domicile. On travaille au domicile des patients, seuls, sous la tutelle d'une infirmière, enfin d'infirmière. Et voilà, donc dans notre métier, on travaille toujours sous la tutelle d'une infirmière.
Est-ce que ça signifie que l'infirmière vous accompagne dans vos tournées ou que vous préparez peut-être les dossiers des patients, vous préparez les visites avant, en amont ?
En admission. Nos infirmières font les premières visites à domicile, on va dire. Elles gèrent comment ça va se passer au niveau médicaments, au niveau infirmier, au niveau... voilà. Et après, on fait la première... le premier soin, on va dire, en présence de l'infirmière.
D'accord.
Et va juger le matériel, si c'est adéquat ou pas. Voilà.
Et vous êtes toujours seule ? Vous ne faites jamais de toilette, par exemple, à deux aides-soignantes ?
Ça arrive.
Ça arrive ?
Maintenant, ça arrive, parce qu'on a des patients qui sont un peu plus dépendants. Et pour le confort du patient, et pour notre confort aussi, on a besoin d'être deux sur certaines toilettes.
Et à domicile, tout à l'heure, vous nous parliez de prendre la tension, par exemple. Quels soins vous faites-vous régulièrement en dehors d'une toilette, quoi ?
On va dire déjà tous les mois, on fait des pesées pour juger de l'évolution de la personne, des prises de tension qui peuvent être toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait tellement de choses sans s'en rendre compte que... Au niveau technique, c'est à peu près... les prises de température, bien sûr. Si on voit que les personnes ne sont pas bien. Et ça, c'est tout du matériel qu'on a en permanence avec nous, dans nos cartables, si on peut dire, dans nos sacs à dos. Et voilà, qu'on a en permanence.
Et à la différence de l'hôpital qui va prendre, par exemple, la tension tous les jours ou la température tous les jours, vous, c'est assez codifié ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier
Par exemple, quand on va peser une personne qui a des problèmes d'insuffisance cardiaque, on va la peser deux fois par semaine. Une personne qui n'a aucun problème, on va la peser une fois par mois. Si on voit que quelqu'un commence à perdre du poids, ben là, on va la peser une fois par semaine. Enfin,
On adapte.
On adapte, voilà. On s'adapte toujours. C'est comme... Il y a des petites choses comme ça où quand on voit qu'une personne était capable de prendre son traitement seule, sans problème, tous les jours, et puis un jour on arrive et on se rend compte que ça devient très compliqué dans ses traitements, qu'elle sort toutes les boîtes, qu'elle n'y arrive plus, on alerte, on voit s'il est possible de mettre en place les traitements par une infirmière libérale. Et puis nous, on peut distribuer les traitements quand on vient lors de nos passages.
Sachant que nous, on fait maximum deux passages par jour.
D'accord.
Donc les médicaments, on peut les donner que matin et soir. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une AVS ou une aide à domicile qui compense le passage de midi si besoin.
Donc à domicile, vous êtes en relation avec d'autres soignants, vous disiez avec des infirmières libérales donc ?
Oui, on les croise assez régulièrement sur certaines tournées. Ouais. Mm-hmm.
Et vous êtes en contact avec d'autres soignants aussi qui interviennent au domicile ou qui sont
les kinés.
C'était pas à dire.
Voilà. Les kinés que vous rencontrez beaucoup, vous travaillez en lien avec eux ?
Ça peut arriver en fait quand on se croise chez les patients. Par exemple, on va dire ben voilà, cette personne a du mal à faire tel mouvement. Est-ce que c'est possible de travailler dessus ? Parce que eux, ils nous en parlent en disant ben voilà, j'ai mal au bras, j'arrive plus à lever mon bras. Et on se dit ben est-ce qu'il est possible de travailler dessus ? Après, nous, on n'est pas médecins.
Bien sûr.
Donc c'est au kiné et au médecin de juger. Mais déjà, nous, on alerte. Et après, ça peut se mettre en place.
Ça peut nous servir aussi au moment de retour à domicile, par exemple sur quelqu'un qui s'est cassé le col du fémur, ou nous, on ne va pas prendre la décision de le faire marcher si on n'a pas vu un kiné qui nous dise « Ok, c'est bon, vous pouvez y aller.
Ouais. »
Parce que bon, s'il y a une chute, nous, on n'est pas aptes à gérer ça. Quoi. Il faut vraiment que ça passe par la décision du kiné.
Et est-ce que vous avez des missions de prévention particulières sur des thématiques assez définies ? Comment ça se passe ?
Par exemple, le risque de chute dont vous parliez, est-ce que vous avez un œil particulier là-dessus ? Est-ce que,
Alors, on voit s'il y a plusieurs personnes qui ont chuté, enfin, s'il y a une personne qui a chuté plusieurs fois, déjà, on alerte, hein, puisqu'on se dit qu'il y a certainement un souci. Et au sein de notre service, on a l'APA, donc c'est la gym adaptée.
L'activité physique adaptée.
Voilà, l'activité physique adaptée. Et donc, alors, c'est pris en charge par le CIAD, en fait, pour les patients qui ont de forts risques de chute ou qui se mobilisent un peu moins bien. Et ça dure un trimestre. Pour un patient, et les personnes qui font la gym adaptée, ils vont une fois par semaine. Et du coup, ça permet vraiment d'anticiper tout ça, les risques de chute, de les faire travailler pour qu'ils prennent confiance en eux, et puis pour que leur mouvement soit plus simple.
Mmh. Oui, donc vous avez un rôle hyper important, en fait, dans le bien-être du patient, dans son quotidien, dans la prévention des risques à venir, tout ça. C'est beaucoup de liens, en fait.
C'est un de nos rôles premiers. Hein, n'importe comment, après la toilette, enfin, on va dire, voilà. On n'est pas, ce qu'on dit souvent, on n'est pas que des laveuses, quoi.
C'est ça. Mais même dans la toilette, vous avez quand même un rapport à l'intimité qui est important avec le patient. Comment c'est...
Déjà, notre but, c'est de leur laisser le maximum d'autonomie tant qu'ils le peuvent. Et après, c'est vrai que c'est... Il faut y aller, on va dire, doucement. C'est malheureusement le cas. Alors, il y a des gens que ça ne dérange pas du tout. Et d'autres personnes avec qui c'est plus compliqué. Petit à petit, on arrive... Moi, sur ma carrière, ça a dû t'arriver aussi. On a des gens où on commence que par un lavage de pieds, par exemple.
Oui.
Ça peut durer 8 jours, 15 jours, on lave que les pieds. Tous les deux jours, parce qu'on quand même tous les jours. Mais voilà.
Oui,
et petit à petit, on arrive à...
Il y a un lien qui se construit avec chaque personne et que ça se fait dans
Alors,
dans
sachant que maintenant, de moins en moins, on veut que le soignant reste avec les mêmes malades. Il faut qu'on tourne.
Ça change tous les 6 mois.
Tous les 6 mois.
D'accord.
Pour quelle raison ?
On n'est pas... C'est les nouvelles...
c'est pour avoir un œil et un avis un peu plus objectif sur l'état des patients, parce qu'il est dit que quand on s'occupe que d'une seule et même personne, enfin tout le temps, au quotidien, on repère moins bien s'il y a un changement cutané, s'il y a un changement de poids, et que quelqu'un qui a un œil nouveau notera plus facilement l'évolution. Donc c'est pour ça qu'on va changer.
On n'est pas toutes d'accord.
Non, mais on va changer tous les 6 mois. En fait, on a des tournées établies, nous aussi, IAD, par soignante. On a 2 tournées et on alterne 1 semaine sur 2. Et donc tous les 6 mois, en fait, on changera de tournée.
Et c'est quelque chose qui est plus ou moins, enfin, qui est plutôt bien vécu par les patients, ou quel retour vous en avez, vous?
N'importe comment, les patients bon, s'habituent, hein, bien sûr, à nous, mais ils sont habitués au changement aussi, parce qu'on on a forcément des vacances, on a forcément des jours de repos, on a forcément... On a des collègues qui sont roulantes, donc qui, elles, nous remplacent. Donc, ils savent que ce n'est pas toujours les mêmes, mais automatiquement, eux aussi s'attachent à nous. Hein, c'est inévitable.
Et au niveau du temps que vous passez, est-ce qu'il y a une différence notable entre le temps que vous pouvez passer avec un patient quand vous êtes à domicile et le temps qu'on peut passer à l'hôpital, par exemple, ou en structure, en EHPAD?
Ça n'a rien à voir.
C'est pour ça qu'on reste à domicile.
Voilà. En fait, alors moi, j'ai travaillé en EHPAD. Concrètement, on a pas de temps. Hein. On est souvent sous-effectif. C'est très, très compliqué. Et du coup, les toilettes sont pas faites de la même façon. Quand on est à domicile, on a le temps... Pour reprendre en charge le patient dans sa globalité, donc son état émotionnel, sa santé, sa toilette. Et du coup, on a vraiment du temps. On a en moyenne 1 demi-heure par patient. En EHPAD, concrètement, si on a 12 minutes pour une toilette, et c'est bonjour, au revoir, et on s'en va, quoi. Ça n'a rien à voir.
Sachant qu'on peut aller jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure, oui. Si vraiment c'est des gens qui sont... qui en ont besoin, qui sont grabataires, qui sont... Voilà.
En fait, on peut
adapter... On n'a pas de notion de limite de temps, en fin de compte.
On peut vraiment adapter notre tournée en fonction de ça, parce qu'en moyenne, sur une tournée, on a entre 5 et 6 patients à l'heure actuelle. Et si on a un patient qui a besoin de temps pour parler, si on a un patient qui a besoin de plus de temps pour des soins divers et variés, on prendra ce temps-là.
Un shampoing, par exemple,
ou... Ah, ouais.
Je crois, les ongles,
voilà.
N'importe quoi.
Quelque chose qui peut prendre facilement du temps.
Ou un jour, une dame qui veut se mettre un peu de rouge à lèvres aussi, ou qui sort.
Oui, pour un événement particulier.
Changer de robe, changer de...
L'aider davantage.
Ou quelqu'un qui est douloureux aussi, au niveau des membres, eh ben, on peut effectuer un petit toucher-massage, voilà, qui le soulagera. Ça prend 5-10 minutes de plus, et ça prend 5-10 minutes de plus.
On voit bien la différence du domicile par rapport à la structure.
Merci. Et on organise nos soins, en fin de compte, sur une semaine. Donc, comme on a toujours les mêmes personnes, on sait qu'il y a des jours où on va faire des douches chez une personne, ça va nous prendre plus de temps. Donc, on fait en quinconce, de façon à ce que tout le monde ait le même temps, en fin de compte, qu'on puisse leur accorder.
Merci. Nous nous retrouvons dans quelques instants, juste après, à nos héros du quotidien de Soprano.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui vient sauver une vie. Un mot, un sourire. Mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh la 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 oh la 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 oh la 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 oh.
Je ne veux pas vous déranger ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie.
On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci.
Beaujolais d'Ombes. Mesdames, comme nous le disions, votre métier tout à l'heure en début d'émission est un maillon essentiel de la santé. Depuis plusieurs années, on parle de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, mais vous rencontrez quand même quelques difficultés. Lesquelles ?
Les difficultés, ça part d'en haut déjà, hein, parce que les médecins se déplacent de moins en moins. Donc garder les personnes à domicile quand il n'y a plus de médecins pour venir les voir, les infirmières, heureusement, sont là, mais elles ne peuvent pas pallier non plus à tout. Nous, bon, les aides-soignantes, on est de moins en moins nombreuses aussi pour le moment. Et les aides à domicile, c'est pareil. Donc le maintien à domicile ne sera plus possible s'il n'y a pas toute cette chaîne pour faire avancer.
Et d'après vous, pourquoi est-ce que vous êtes moins nombreuses ?
Ce n'est pas un métier qui fait très, très attrayant, oui. Comme ça. Je pense que si vous posez la question à 100 personnes, il y en a 50 qui vont vous répondre « Ah, tu fais ça, mais alors avec un air, je ne pourrais vraiment pas le faire. »
De dégoût.
De dégoût, voilà, je n'osais pas le dire, mais
c'est, oui, c'est vrai.
C'est ça.
Il y a ça, il y a le salaire aussi, hein, qui n'est pas très attractif.
Et encore, ça s'est bien arrangé, mais
oui.
Bon.
Mais nous, on est dans une association. Après, c'est vrai que quand d'autres aides-soignants travaillent à l'hôpital, dans la fonction publique, c'est pas les mêmes salaires. Ils ont les primes, par exemple la prime Ségur, que nous, on n'a pas parce qu'on est associatif, semi-associatif. Et du coup, pourtant, on travaille aussi avec des personnes âgées, mais on n'a pas le droit à ces primes-là. Nous, sur notre travail à domicile, comme le disait Claudine, on travaille le matin et le soir. Donc, il faut se dire qu'on a une coupure de 5 heures entre les deux. Donc, quelqu'un qui veut un temps plein est obligé d'avoir une coupure de 5 heures, de midi 15 à 17 heures. Ça veut dire rentrer chez soi, faire sa petite popote, et puis se remotiver à partir alors que la nuit tombe, l'hiver, ou que les enfants ont de l'école. Oui, l'été, quand il fait bien chaud. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué. Donc, alors, les personnes souvent préfèrent un mi-temps. Et le mi-temps, au niveau salaire, c'est pas très... très sympa. Donc voilà, je pense que les gens, ça les attire pas trop par rapport à ça, quoi.
Oui, parce qu'il y a quand même, on a des collègues qui sont venus parce que, pour la condition de travail à domicile, parce que c'est quand même...
Oui, les conditions sont pas les mêmes qu'en structure.
Mais quand on leur dit que pour le même temps de travail, elles vont toucher entre 350 ou 400 euros de moins...
Forcément,
ça
on réfléchit.
Fait réfléchir.
Il y en a qui sont partis.
Il y en a qui sont repartis pour ça.
Vous avez beaucoup de collègues qui viennent et qui repartent, qui ne restent pas ?
On a eu beaucoup.
Là, ça va.
Ça se calme.
Ouais.
C'est-à-dire que de travailler que les matins, c'est intéressant pour les personnes qui ont des enfants qui sont jeunes. Mmh. C'est vrai que ça permet de s'occuper de sa famille tous les après-midi. Oui.
Financièrement, c'est compliqué quand même. Après, c'est vrai que le métier, il n'est pas attractif parce que les gens ne connaissent pas. Et comme le disait Claudine tout à l'heure, ils ont l'impression qu'on est laveuse. Et qu'on va que changer des protections dans une journée, c'est tout ce qu'on fait, quoi. Et en fait, pas du tout. Après, nous, comme je le disais aussi, on aime l'humain. Et quand on voit nos patients, on voit pas un change, on voit pas une toilette, on voit la personne dans sa globalité, les émotions, le lien qu'on crée avec. Et en fait, beaucoup de personnes l'oublient, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'humain est un peu oublié. Donc, ils ne se rendent pas compte, pour la plupart, de ce que c'est vraiment que ce métier.
Quand vous arrivez chez vos patients, vous êtes attendu.
Oui.
Je pense que c'est aussi quelque chose qui doit jouer dans votre métier, et dans le plaisir que vous avez à l'exercer, non ?
Oui. Après, c'est quand même partout. Hein. Il y a des affinités. Il y a des patientes c'est plus souvent des patientes, concrètement, chez qui on va. Moi, parfois, j'ouvre la porte et on me dit « Oh, Gaëlle, mais ça fait longtemps que je ne vous avais pas vue. Je suis contente de vous voir. » Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on sait qu'on compte pour elles. Et ça aussi, c'est important.
Ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, c'est un métier qui n'est pas évident, qui demande beaucoup d'empathie, sûrement, mais qui apporte aussi beaucoup, je pense.
Oui.
Au niveau humain, quoi.
Oui.
C'est sûr.
De l'empathie, je pense que sans, on ne peut pas travailler dans le soin, tout simplement, quel que soit le métier du soin, hein, qu'on soit médecin ou aide-soignante, c'est impossible. Et puis c'est vrai que ça demande beaucoup aussi psychologiquement parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des patients auxquels on s'attache et puis qui décèdent, donc ça nous fait beaucoup de peine, mais on avance et puis on est là pour s'occuper de ceux qui sont là et puis on crée un lien qui est quand même relativement fort avec certains.
Mais il faut quand même pas oublier que c'est un métier qui est fatigant physiquement et psychologiquement.
Les deux versions de l'aide-soignante.
Ça fait la balance, heureusement. Mais
si vous deviez donner envie à des jeunes qui pourraient nous écouter, qui hésitent à devenir aide-soignante, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour valoriser votre métier ?
Déjà, il faut aimer les gens, c'est sûr. Ça, c'est primordial. Je crois qu'il faut que les gens viennent voir, qu'ils se rendent compte, que ça ne soit pas uniquement quand ils ont besoin de nous, qu'ils se disent « Ah oui, vous avez un métier formidable, quoi. Si vous n'étiez pas là, comment on ferait ?»
Il faut faire des stages, quoi.
Voilà, il faudrait, il faudrait que les jeunes essayent de venir voir ce que c'est.
Alors, il y en a qui sont venus parce que... Faut pas se le cacher, hein, Pôle emploi, on voit les jeunes en disant bon, allez, t'as pas de boulot, tu vas aller faire aide-soignante, il y a du boulot, il y aura forcément quelque chose pour toi. Et puis en fait, une fois dedans, ça convient pas, ça correspond pas, parce que c'est un métier qui est difficile, comme on disait, et psychologiquement et physiquement. Et c'est vrai que il faut faire attention à pas ramener ce métier chez soi. En fait, quand on rentre chez nous, il faut que le travail il reste bien derrière la porte d'entrée. Mais ça, parfois, c'est compliqué. Mais c'est un métier qui nous apporte vraiment beaucoup aussi. Vraiment.
Ah oui.
Merci.
On ne resterait pas.
On se retrouve juste après Song for a Jedi de Dionysus.
J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocute. pyrogravure.
When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi.
When I was a child. Un peu trop longtemps et encore aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Pyrogravure.
When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi.
When I was a child,
I was a child.
Sentez vos gelées d'ombre.
Calade, ma radio.
Nous avons découvert la profession d'aide-soignant. C'est un métier présent dans toutes les structures de soins, mais aussi à domicile. Un métier qui est dans l'intimité des patients, mais qui s'occupe aussi de la prévention de la santé. C'est un métier riche de diversité, mais de reconnaissance. Il est pourtant essentiel à chaque personne qui aura un jour besoin de soins et indispensable aux personnes âgées qui souhaiteraient maintenir leur lieu de vie à domicile. La gériatrie sur notre territoire va d'ailleurs être un sujet fort pour la CPTS en 2024. Si vous avez manqué une partie de notre émission, il y a le réflexe podcast, j'ai vraiment du mal à le dire ce mot-là, disponible sur le site de Radio Calade. Gaëlle Liberti, Claudine Pérignat, un grand merci pour votre participation.
Merci à vous.
Cécile, tu nous quittes pour le moment, parce que tu as d'autres obligations. Nous te remercions d'avoir fait partie de l'équipe. Et quant à nous, en tout cas moi, et toi Maury, rendez-vous même heure, même endroit le mois prochain pour une nouvelle émission. Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Calade.